Radio Prague, les informations.
Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Cyril Svoboda, a rencontré à Ramallah le président palestinien. Václav Havel estime que l'Europe se trouve sur un carrefour. Václav Klaus a dénoncé une nouvelle fois l'idéologie du multiculturalisme. À la fin de sa visite de 3 jours des territoires palestiniens autonomes, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Cyril Svoboda, a rencontré à Ramallah le président palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier a salué la contribution de l'Union européenne à la solution du conflit israélo-palestinien. L'année prochaine, la République tchèque enverrait en Palestine 2 experts policiers dans le cadre d'un projet de l'Union européenne en vue de la formation de la police palestinienne. L'Europe se trouve sur un carrefour, un avis exprimé par l'ex-président Václav Havel à un symposium international tenu à Vienne. Il estime que les politiciens européens devraient se prêter davantage à l'écoute des citoyens, renforcer les valeurs sociales traditionnelles et la démocratie, au lieu d'imposer des internationaux populistes. Après avoir quitté Vienne, Havel se rendra à Budapest à une conférence consacrée aux droits de l'homme. Selon le président tchèque Václav Klaus, l'idéologie du multiculturalisme et l'idée d'un État social en Europe seraient à l'origine des récentes émeutes en France. Il a exprimé cette idée dans un entretien accordé à la chaîne de télévision privée Prima en ajoutant que le modèle social ne motivait pas les gens à travailler. Selon l'Eurostat, en Tchéquie et en Hongrie, on ne trouve pratiquement pas parmi les travailleurs de personnes pauvres. On notera que le salaire moyen net en République tchèque se situe à présent autour de 13 700 couronnes, l'équivalent de quelque 460 euros. Le décathlonien Roman Schebel a été proclamé pour la 4e fois consécutive meilleur athlète de la République tchèque, médaille d'argent au championnat du monde d'Helsinki. Suivent la lanceuse de disque Viera Tchechlova-Pospichilova et le sauteur en hauteur Jaroslav Baba. Le jury qui décide des gagnants de l'enquête est composé de journalistes, de fonctionnaires et d'entraîneurs. La pluie et la neige continuent à compliquer la circulation en Tchéquie, notamment dans le nord du pays. Les routes y sont praticables avec une grande prudence. Plusieurs accidents de la route graves se sont produits encore ce dimanche. Pour ce lundi, qui est marqué dans le calendrier tchèque comme le jour de fête de Albert, la météo prévoit un ciel couvert avec d'abondantes chutes de neige et des températures autour de zéro. C'était le journal préparé par Alana Gebertova.
Culture sans frontières. Magda Segertova.
Quelle différence entre l'institution du mariage sous le communisme et aujourd'hui, 16 ans après la révolution de velours? Cette question est au cœur d'un cycle de films documentaires réalisés dans les années 1980 et 2000 par Helena Křeštíková, une des documentaristes les plus renommées en Tchéquie. 2 épisodes de ce cycle ont été récemment présentés en première et primés au Festival international du film documentaire de Jihlava. Nous en parlerons dans ce numéro de Culture sans frontières. L'année de la mise en service après 13 ans de travaux de l'autoroute entre Prague, Brno et Bratislava. L'année de la Spartakiade, la fameuse fête de gymnastique socialiste. L'année des Jeux Olympiques de Moscou boycottés par les États-Unis où les athlètes tchécoslovaques gagnent 3 médailles. En tennis, l'équipe tchécoslovaque remporte pour la première fois la Coupe Davis. Toujours en 1980, disparaît le célèbre acteur tchèque Jan Verich et le réalisateur Jiří Menzel, adepte au cinéma postrigéné, la chevelure sacrifiée de Bohumil Hrabal. Les autorités communistes mettent en place l'Office fédéral pour la presse et les informations, une institution de censure. Nous sommes en 1980, 3 ans après la publication de la charte 77 qui mobilise les opposants au régime et 5 ans avant le début de la perestroïka. La chute du communisme est encore loin. Le régime totalitaire semble éternel. Nous sommes en 1980 et la jeune documentariste Helena Treštíková commence à suivre avec une caméra 6 couples tchèques. 6 couples qui ont un seul et unique point commun. Ils viennent de se marier à Staroměstská radnice, la mairie de la vieille ville de Prague. Helena Treštíková et son équipe filmeront pendant 6 ans leur vie. Ils saisiront des moments ordinaires et les périodes charnières de leurs aventures de jeunes mariés. Ainsi naîtra un cycle de films documentaires intitulé « Manželské etidy », histoire de couple. 20 ans après le début du projet, en 1999, la réalisatrice décide de récidiver. Elle frappe à nouveau à la porte de ses héros de jadis pour leur reposer sa question habituelle. Alors, quoi de neuf ? 20 ans après, tout a changé. L'époque, le régime, les conditions et le rythme de vie. Et les gens, bien sûr. Là encore, Helena Treštíková se lance à nouveau pendant 6 ans dans le tournage. Le fruit de son travail de longue haleine, les histoires de couple 1 et 2 seront diffusées en début d'année prochaine sur la télévision publique. Helena Treštíková.
Celý ten projekt vznikl tak, že v tom roce 80 v krátkém filmu.
L'idée originelle, née dans les studios Kratky Film, court-métrage, était de s'interroger sur le fait « Pourquoi y a-t-il tant de divorces parmi les jeunes ?» L'idée était donc de les suivre pendant 5 ans pour voir où, quand et comment commencent les problèmes au sein d'un couple, ou au contraire, ce qui le rend solide. Il nous a fallu, pour cette expérience, trouver des jeunes mariés de 18 à 24 ans environ, de toutes les tranches sociales, non divorcés et sans enfants. En collaboration avec le registre d'état civil du 1er arrondissement de Prague, nous avons choisi d'abord 10 couples, ensuite leur nombre a baissé à 6. Au début, nous ne savions strictement rien sur ces gens et nous n'étions pas sûrs qu'ils tiennent jusqu'au bout. Mais ils ont tenu, je crois même qu'en dépit de quelques moments de crise, ils ont pris goût à cette expérience particulière. Ensuite, leurs destins ont été bien sûr très différents. Sinon, des 6 couples, il y en a 3 qui se sont séparés. Cela correspond tout à fait aux statistiques selon lesquelles 1 couple sur 2 dans cette catégorie d'âge divorce.
Au festival de Jihlava, Helena Treštíková a décidé de présenter 2 documentaires de son cycle relatant la vie de Václav et Ivana. Je l'aime, elle m'aime, alors on s'est mariés, ça ne peut pas se terminer mal, disent Vašek et Ivana le jour de leur mariage. Étudiants en architecture, ils vivent dans un mini appartement à Nusle. Ils mettent plusieurs années à le retaper. Et oui, trouver une piole à Prague a toujours été une galère. Ils sont bientôt 4 à vivre dans ce petit 2 pièces. Entre-temps, Vašek passe par le service militaire obligatoire. La vie n'est pas toujours facile, mais ils semblent heureux. Après la révolution de velours, on retrouve Ivana et Václav dans leur grande maison qu'ils ont eux-mêmes construite quelque part dans le 4e arrondissement de Prague. Ils ont 5 enfants. Le Benjamin va encore à la maternelle, un fait rare dans la République tchèque post-communiste. Ils sont devenus chacun de leur côté commerçants. Mais les affaires ne vont pas bien, les rêves s'évanouissent. Un de leurs fils, Martin, vagabonde dans la ville et flirte avec la drogue.
Les histoires que je filme ne se terminent pas avec la dernière image. J'espère revenir encore au destin de mes héros.
A dit l'inlassable Helena Treštíková dans une interview à la presse.
Une question me trotte dans la tête. Qu'est-ce qu'un mariage heureux ? Ivana et Vašek sont restés ensemble et font face aux problèmes que leur apportent leurs multiples et épuisantes activités. Ivana a tenté de se suicider, mais elle est toujours en vie. Vachek a pleuré plusieurs fois devant la caméra, mais il continue à exploiter son entreprise et à en vouloir à ses enfants parce qu'il ne les comprend pas. Chaque jour, il guette devant son magasin les clients. La vie continue. C'est peut-être ça, un mariage heureux.
Mais si les documentaires de Helena Treshchikova sont des analyses psychologiques fines, utiles à tout candidat au mariage, ils sont aussi et surtout un témoignage, une réflexion sur deux époques différentes. Son regard jeté sur les années 80, méconnu des nouvelles générations et vu déjà avec un certain recul par ceux qui les ont vécues, se révèle comme particulièrement intéressant. Les réactions des festivaliers de Jihlava, surtout des plus jeunes qui n'ont jamais vu des centaines de soldats partir d'une même gare au service militaire, des gens faire des queues d'un kilomètre pour acheter un sapin de Noël ou téléphoner d'une cabine à pièces, en sont la preuve. Quels sont les pièges dans lesquels peut tomber un documentariste qui se lance dans des projets semblables d'aussi longue haleine? Réponse de Jean-Pierre Rem, directeur du Festival international du film documentaire de Marseille et membre du jury à Jihlava.
Moi, j'ai montré l'année dernière le film d'un cinéaste belge, Hugues Lepège, qui fait un film que j'ai présenté en compétition, un film qui s'appelle Il fare politica, où il a suivi pendant 20 ans ou un peu moins des amis à lui, mais qui étaient des militants communistes italiens, et il les a suivis du temps de la grandeur du PCI, et puis aujourd'hui, voilà, après la transformation du parti. Et c'était un document extrêmement intéressant, bien sûr. Cette idée-là de suivre sur longtemps, je pense que c'est une très bonne chose, qui n'est pas nouvelle. Hein. Jean Eustache avait fait proposer ça avec La Rosière de Pessac. Il avait fait deux films sur une cérémonie. J'ai montré, il y a aussi 2 ans, un cinéaste qui a filmé pendant 20 ans une cérémonie qui avait lieu tous les ans, donc de 1984 à 2004. Et des films assez brefs, des films de 10 minutes à chaque fois. Et c'est passionnant, on apprend beaucoup de choses. Mais tout dépend de comment c'est fait. C'est une très bonne idée de prendre en compte le temps qui passe. Mais le temps, on le prend pas n'importe comment. C'est-à-dire pour à la fois montrer les effets, il suffit pas juste de dire rendez-vous dans un an. Parce que si au moment où on a filmé, on n'a rien filmé, dans 20 ans, on n'aura plus rien, si vous voulez. Je veux dire, on n'a rien filmé, je veux dire, on n'a rien saisi de la réalité. Le rendez-vous d'après non plus. Au total, vous aurez 20 ans de rien. Donc c'est une excellente idée, mais à chaque fois que le film est fait, ça doit être une chose importante. Il faut pas croire que l'idée est plus forte que le film. Il faut que le film porte l'idée.
Culture sans frontières.
Même s'il reste difficile pour les documentaristes de trouver un soutien financier pour leurs films, notamment pour ceux réalisés sur une longue période, le documentaire se porte peut-être mieux que jamais, Jean-Pierre Rem.
Il y a beaucoup de films en France, là je parle, qui sortent en salle. Des documentaires qui sont vus dans les salles de cinéma. Et pas simplement des choses entre guillemets grand public, pas simplement Michael Moore, mais des films beaucoup plus difficiles, ne serait-ce que dans leur format. Hein. Moi, j'ai montré il y a 2 ans ou 3 ans un film qui a été le Grand Prix à Marseille, qui était un film de Wang Bing, un film d'un Chinois qui s'appelle « À l'ouest des rails » et qui fait 9 heures. Bon, j'étais convaincu que le film allait circuler en festival et puis fini. En fait, il y a un distributeur et un exploitant qui ont décidé de montrer le film. Il y a eu un énorme succès presse. Beaucoup de gens sont allés le voir. C'était en 4 épisodes. Et maintenant, il est diffusé en DVD par MK2, qui n'est pas connu pour être un Marine Karmitz, qui n'est pas connu pour être un philanthrope. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des possibilités. Donc ça, c'est une chose très importante, que des cinéastes fassent du documentaire et puissent éventuellement être montrés dans les salles. Et inversement, j'ai envie de dire, il y a aussi toute une production qui existe sous forme de DVD ou sur le net, ou caméra DV, et il y a une grande circulation. Donc moi, je pense que le faible coût que permettent les nouvelles technologies et que permet le documentaire permet une grande circulation des films. Donc ça, c'est, je pense que le point financier est un vrai problème, et en même temps un problème qu'on peut, que le documentaire peut savoir, à mon avis, favorablement contourner. Donc ça c'est très important. Et puis, disons, derrière tout ça, je crois qu'il y a un grand intérêt du public en général, quel que soit pour les festivals, pour la télévision, pour les salles, pour les DVD, tourner vers le documentaire. Je pense qu'il y a un léger ressoufflement de la fiction qui n'arrive plus à parler du monde tel qu'on le vit aujourd'hui, et que le documentaire aujourd'hui est devenu un outil apprécié par les gens, parce que c'est un outil qui travaille avec des outils beaucoup plus précis, beaucoup plus fins que la fiction, qui est obligée d'utiliser des outils beaucoup plus gros pour parler des choses.
Prochain rendez-vous avec Culture sans frontières dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et bonne écoute de la suite de notre programme.
Vous avez dit la République tchèque? Voyagez donc, Alain Slivinsky.
La République tchèque est un pays aux paysages les plus variés. Montagnes, plaines, vallées, vous y trouverez tout ce que vous voudrez. À part la mer, le visiteur peut bénéficier de toutes les principales attractions touristiques reconnues dans le monde. Parmi ces touristes, il existe une catégorie assez spéciale, les chasseurs. Comme le début du mois de novembre, plus précisément le 2 novembre, est le jour de l'ouverture de la chasse au petit gibier en République tchèque, nous consacrerons notre balade touristique de cette semaine à la chasse. La chasse, dans le passé une activité réservée surtout aux membres de la noblesse, est devenue un passe-temps pour bon nombre de citoyens tchèques. L'automne est traditionnellement la saison de la chasse au petit gibier, bien que les saisons de chasse diffèrent justement selon le type de gibier. Pourtant, le 2 novembre est une date importante pour les chasseurs tchèques. À partir de ce jour, ils peuvent chasser les lapins de garenne, les lièvres ou autres petits gibiers comme le faisan, très recherché d'ailleurs en Tchéquie. Rappelons au sujet du faisan que les faisanderies existent sur le territoire de la République tchèque actuelle depuis le XIVe siècle. On peut chasser le faisan dans les chasses ouvertes jusqu'à la fin de l'année, alors que dans les faisanderies, cela est possible jusqu'à la fin du mois de janvier.
Es muss sie nach Ramen noch
On constate qu'il y a de plus en plus de chasseurs étrangers dans les champs, les bois et forêts tchèques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attirés non seulement par les prix de l'hébergement, de la nourriture ou de la chasse elle-même, mais aussi et surtout par le respect des anciennes coutumes et traditions. Il y a tout d'abord la quantité de gibier aussi, et ensuite les traditions. L'ouverture de la chasse, qui est une grande et imposante cérémonie, les signaux de chasse, les corps, la cérémonie de la fin de la chasse, l'appréciation des trophées, la nomination du roi de la chasse. Il arrive très souvent d'ailleurs que lors de l'adoublement d'un chasseur étranger dans une chasse tchèque, à l'issue d'une bonne partie, celui-ci ait les larmes aux yeux.
Thank you. Девчатка, девчатка, на мне се смеете, Еном обих танцевал, а платить не хцете. Уй-я-я, уй-я-я, на мне се смеете, Еном обих танцевал, а платить не хцете.
Quel est donc le gibier que les chasseurs étrangers préfèrent en République tchèque? Le plus renommé est certainement le faisan. On le chasse un peu partout, mais la région la plus renommée est certainement la Moravie du Sud, suivie de la Bohême centrale et de l'Est. Beaucoup de chasseurs étrangers, allemands, autrichiens, mais aussi français ou belges, viennent pour des battues aux sangliers ou aux lièvres et lapins garennes. Ces dernières années, à côté des chasseurs traditionnels des pays voisins, on voit arriver, grâce aux agences de voyage spécialisées, des chasseurs de tous les pays du monde, Amérique, Scandinavie et Russie. D'après Vladimir Broukal, président de l'unité des chasseurs tchéco-moraves, les étrangers en général respectent les normes et la juridiction tchèque. Ils savent par exemple qu'ils ne peuvent tirer sur une bête qui court ou vole dans la direction des autres chasseurs. Ils sont conscients du fait qu'ils doivent respecter les normes de sécurité, autrement ils pourraient tirer un autre chasseur à la place du gibier convoité. Une règle d'or des chasseurs, une arme de chasse est une arme. On ne peut arrêter un tir après avoir pressé sur la détente de cette arme. C'est une arme de mort pour le gibier, mais elle ne devrait pas le devenir pour un être humain. Heureusement, les accidents de chasse ne sont pas très fréquents chez qui, qu'il s'agisse de chasseurs tchèques ou étrangers.
Дам камарадум сердечко девчатум, уй-я-я, уй-я-я, весту музиканту, пивичку дам камарадум сердечко девчатум. Дамшеньки зи весту музиканту, пипичку дам камараду, сердечко девчату, уй-я-я, уй-я-я, весту музиканту.
Que pouvez-vous chasser en République tchèque et quand? En ce qui concerne le gros gibier, le gibier à poil, donc le cerf, la biche, le faon des bois, c'est du 1er août au 15 janvier. Les dates sont à peu près les mêmes pour les chevreuils ou les autres races de cerfs. En général, un peu plus courte la période de chasse qui se termine avec la fin du mois de décembre. La chasse aux sangliers, elle, se déroule à peu près dans la même période. Par contre, si vous voulez chasser le mouflon ou le chamois, en effet cela est possible en Tchéquie, il vous faudra commencer un mois plus tard, en septembre seulement. En ce qui concerne le lièvre, la lapin garenne, le renard ou autre petit gibier à poil, c'est toujours l'automne et l'hiver, jusqu'à la fin de l'année.
Слівецька галена, галена, аби се ті залівила, не слівецька галена.
Le gibier à plumes, en Tchéquie, il s'agit surtout du faisan que l'on peut chasser du début de l'automne à la fin de l'année. Il y a des différences d'ouverture et de fin de la chasse pour les différentes catégories de faisans, commun, royal, femelle ou mâle. Au printemps, on peut chasser la dinde sauvage, mais seulement le dindon, alors qu'à l'automne, on pourra chasser la dinde. Le canard sauvage se chasse en automne, de septembre à la fin du mois de novembre. La perdrix se chasse en automne aussi, mais la pie ou le corbeau au début de l'année, en janvier-février. Si vous voulez chasser d'autres gibiers, il faut prendre contact avec l'unité des chasseurs. Pourtant, le mieux est de s'adresser aux agences de voyage spécialisées. Naturellement, il ne faut pas oublier que si vous voulez chasser des spécialités, oies sauvages par exemple, ou fouines, cela exige de prendre connaissance de dispositions spéciales concernant les dates, mais aussi les années où cela est possible. Le très gros gibier, comme l'ours par exemple, n'existe pas en Tchéquie, tout comme les carnassiers, loups, lynx ou autres. Certains individus vivent sur le territoire tchèque, mais sont protégés. Bonne chasse aux informations pour l'instant, et rendez-vous pour une nouvelle balade touristique en République tchèque. Et c'est la fin de notre émission en langue française.
Poczekaj na mnie, me serce, zastrzelim ci zajice, aby se ci zalibila. Слівецька чепице, чепице, аби се ті залівила. Слівецька чепице.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio